Nous avons ensemble commencé un cycle dans le cycle sur la maison du Père. Alors, donc, rappelez-vous que le cycle, ce sont les sept processus synergiques de la croissance et de la régénération. Et à l'intérieur du cycle, nous avons partagé sur la maison du Père. Et nous avions dit, nous avions partagé sur le fait que la maison du Père, ce n'est pas un lieu physique, ce n'est pas un endroit qu'on peut toucher, ce n'est pas un endroit qui se trouve quelque part ou quelque part. La maison du Père, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous prenons conscience que le Père nous aime, lorsque nous développons à son égard une obéissance et lorsque nous recevons son éducation. La maison du Père, c'est lorsque notre cœur, c'est lorsque ton cœur se trouve auprès de Dieu et que ce cœur bénéficie de tout l'amour, tout cet amour enveloppant, puissant, profond qui nous rencontre. C'est la maison où nous commençons à développer une obéissance à Dieu, où nous commençons à comprendre sa volonté et à nous y inscrire. Et la maison du Père, c'est le lieu où nous recevons l'éducation de notre Père. Tout enfant reçoit l'éducation de son Père. Et donc, nous avons déjà partagé sur cela, et la dernière fois, nous avions dit que la maison du Père, c'est premièrement la maison de l'obéissance, la maison où l'on apprend à obéir. Nous avions dit que la maison du Père, c'est la maison de la confiance, c'est la maison où on apprend à faire confiance à Dieu. On avait partagé sur le psaume 131 qui disait « Je suis comme un enfant sevré dans les bras de sa mère ». Cette confiance en Dieu qui faisait que le psalmiste se remettait complètement à la volonté de Dieu, complètement paisible, sachant que Dieu sait ce qu'il fait, sachant que Dieu sait où il va, une totale confiance. Et nous avions dit aussi que la maison du Père, c'est la maison du contentement. C'est la maison où on apprend à être content de ce qu'on a. C'est la maison où on apprend à être content de ce qu'on a reçu, de ce que Dieu nous donne, des gens auxquels Dieu nous permet de rencontrer, de la communauté où on est. C'est une maison où on est reconnaissant, où on est content. Par opposition à la convoitise qui a amené le fils prodigue à quitter la maison de son père en se disant « il y a peut-être mieux ailleurs que chez mon père ». Non, la maison du père, c'est je découvre que l'endroit, la place où je dois être, c'est auprès de Dieu. C'est le meilleur endroit où je puisse me trouver. Quel que soit ce qu'on me propose en dehors de la maison de mon père, quelles que soient toutes les désobéissances qu'on nous propose, tous les égarements, toutes les manigances qu'il y a en dehors de chez mon père, tout ce qu'il y a d'attirant même, je prends conscience que ma place, elle est près de mon père, en train de l'aimer, en train d'être aimé par lui, en train de lui obéir et en train d'être éduqué par lui. Être éduqué par lui. Et aujourd'hui, nous allons voir la quatrième caractéristique de la maison du Père. La maison du Père, c'est la maison de la contemplation. Et pour cela, nous allons lire dans Jean chapitre 5, l'Évangile selon Jean chapitre 5. Et là, nous allons lire les versets 17 à 23, même si malheureusement, ça nous ôte le contexte. Mais ce n'est pas grave. Jean chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 23, voici ce qui est écrit. Les chefs des Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du Shabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. » Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir. Car non content de violer la loi sur le Shabbat, il appelait encore Dieu son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus répondit à ses reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père relève les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Amen. Alors ce texte de Jean chapitre 5, c'est un texte que nous connaissons bien, puisqu'il s'agit du fameux texte où Jésus, dans sa grande compassion, dans sa grande miséricorde, va en réalité guérir un malade le jour du Shabbat. Et les juifs, les responsables de la synagogue qui sont là à ce moment-là, s'indignent. Ils s'indignent parce qu'ils estiment que c'est complètement anormal, incorrect, que Jésus en vienne à guérir un malade le jour du Shabbat. Aujourd'hui, pour nous, ça n'a aucun sens. Ça, pour nous, on considère que la miséricorde de Dieu qui guérit, c'est fantastique. Mais pour eux, ils étaient tellement enfermés dans un carcan doctrinal, un carcan théologique fermé, difficile, peu ouvert. Pour eux, c'était complètement impossible. Et ils viennent vers Jésus pour l'accuser, pour lui reprocher l'acte qu'il a posé. Et Jésus donne une réponse qui est assez étonnante, puisqu'il va leur dire « Mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre ». Ça, c'est la réponse de Jésus. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs manières d'aborder les textes en fonction de l'origine. Vous avez des textes qui sont des polémiques, comme celui-ci, où quelqu'un vient pour reprocher quelque chose à Jésus. Et puis, vous avez d'autres textes qui sont des enseignements où Jésus développe un enseignement sans qu'on lui ait rien demandé. Il vient et il enseigne la foule. Mais c'est un texte polémique. Les gens ne sont pas d'accord avec lui. Ils s'opposent à lui. Et la réponse de Jésus, c'est « Mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre ». Quelque part, Jésus est en train de leur dire « La guérison que je viens d'opérer, mes amis, je ne l'ai pas opérée de mon propre chef. Je ne l'ai pas opérée parce que j'avais envie. Je ne l'ai pas opérée en désobéissance au Père. » Je l'ai opéré dans le plein alignement de ce que mon Père fait. Il dit, mon Père est à l'œuvre, mon Père qui est dans les cieux est à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. Jésus vient nous enseigner que son action, ce n'est pas une action indépendante, c'est une action d'imitation. Il se contente simplement de faire sur la terre ce que son Père fait dans le ciel. Et il nous enseigne cela. Et par là, il va nous faire rentrer, et c'est vraiment fantastique, il nous fait rentrer dans l'intimité de sa relation avec Dieu. Dans ce texte-ci, Jésus va nous expliquer comment est-ce que ça marche entre le Fils et le Père. Il nous fait rentrer dans les secrets de sa relation avec Dieu, et il nous enseigne comment est-ce que ça marche. Et cette description-là, il nous l'a fait du verset 19 au verset 21. Première règle que Jésus nous apprend concernant sa relation avec le Père, c'est que le Fils ne fait rien de sa propre initiative. Le Fils ne se permet pas d'avoir des initiatives, même gentilles, même bienheureuses, même volontaires. Le Fils ne fait rien de sa propre initiative. Le Fils ne fait que ce que son Père lui demande de faire. Il n'y a pas de place pour l'improvisation, il n'y a pas de place pour l'initiative, pour l'invention, pour la création, pour le hasard. Le Fils ne fait rien de sa propre initiative, première règle de sa relation avec Dieu. Deuxièmement, le Fils agit d'après ce qu'il voit faire le Père. Donc le Fils, lorsqu'il est amené à agir, à poser des actes, il le fait en fonction de ce qu'il voit faire le Père. Il observe ce que son Père est en train de faire, il observe comment son Père fait les choses, et ensuite il se contente de reproduire ce qu'il a vu chez son Père dans ses actions. Troisièmement, le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Dieu montre à son Fils tout ce qu'il fait pour que son Fils puisse en être instruit, pour que son Fils puisse le découvrir et pour qu'il soit outillé pour lui-même faire ce qu'il a à faire. Et puis quatrièmement, le Père délègue tout son pouvoir au Fils. Et lorsqu'on entre dans ces secrets de Jésus, on arrive à comprendre de quelle manière devrait être notre relation avec Dieu. Lorsque nous sommes dans la maison de notre Père, lorsque nous sommes auprès de lui, comment est-ce que notre relation avec Dieu est censée se construire? Jésus vient nous dire, si tu es fils dans la maison de ton Père, la manière dont ça doit fonctionner, c'est que tu dois simplement être dans la maison de ton Père en train de le contempler, en train de regarder qui il est, en train de regarder ce qu'il fait, en train d'écouter ce qu'il dit, et ensuite simplement de reproduire ce que tu auras vu chez ton père. C'est de dire que notre vie chrétienne, notre marche avec le Seigneur, elle n'est pas conduite, dirigée par ce que nous faisons, par le ministère dans lequel nous sommes, ou les services que nous faisons. Elle n'est pas définie par les relations que nous avons, dans l'Église, à l'extérieur de l'Église, à quelle communauté nous appartenons, ou tout ce qu'on veut. Notre marche avec Dieu, elle est déterminée par la manière avec laquelle nous allons contempler Dieu et découvrir qui il est. Et au fur et à mesure que nous allons avoir une image d'autant plus précise de qui est Dieu, de ce que Dieu veut, de ce que Dieu dit, nous allons pouvoir avoir une action qui va pleinement s'inscrire dans sa volonté. Ma contemplation définit ma réaction. Lorsque je suis face à une situation, lorsque je rencontre des difficultés, lorsque je suis en contact avec un frère, avec une sœur, lorsque dans la rue, au travail, je fais face à une réaction, à une situation, ma réaction va être définie par ce que j'ai compris de Dieu. Qu'est-ce que j'ai compris de la nature de Dieu? Qu'est-ce que j'ai compris de la volonté de Dieu? Qu'est-ce que j'ai compris du cœur de Dieu? Ça peut être des situations très très banales. Par exemple, je vis avec quelqu'un qui m'agace beaucoup, qui m'insupporte. Quelqu'un qui m'agace parce qu'il ne fait jamais les choses à ma vitesse. J'aimerais toujours que ça se fasse plus vite, que ça se fasse de la même manière, ou je vis avec quelqu'un qui ne change pas autant que j'aimerais qu'il change, ou aussi vite que j'aimerais qu'il change. Comment est-ce que j'ai compris la patience de Dieu? Quelle est l'image que j'ai reçue dans mon esprit de la patience de Dieu? Nous l'avons chanté, et nous le chantons souvent, « Dieu, quel amour pour moi, quelle patience !» Cette réaction que je vais avoir face à ce proche qui m'énerve parce qu'il ne va pas à mon rythme, doit être dictée par « Comment est-ce que j'ai découvert la patience de Dieu à mon égard ?» Ce Dieu patient qui ne se lasse pas d'attendre que nous puissions changer. N'est-ce pas que ça vous est déjà arrivé de prier souvent pour les mêmes péchés ? Peut-être que vous êtes des touche-à-tout. Mais en général, il est force de constater que nous demandons souvent pardon à Dieu pour les mêmes péchés. Nous luttons toujours avec les mêmes choses. Vous voyez, c'est-à-dire que bon, si c'est le mensonge, ben malheureusement, c'est souvent le mensonge que je demande pardon à Dieu. Ou si c'est la médisance, ben c'est souvent le même péché pour lequel je vais demander pardon à Dieu. Nous sommes des gens qui sont constamment en but, avec des luttes qui sont toujours les mêmes. Nous demandons pardon à Dieu pour les mêmes choses. Nous sommes constamment tiraillés par les mêmes péchés. Mais ce Dieu est un Dieu patient, qui nous attend, qui attend notre changement, qui attend notre repentance, qui attend que nous puissions changer, qui attend que nous puissions grandir. C'est un Dieu qui nous laisse le temps, comme un père va prendre le temps pour son enfant de l'instruire, de l'encourager, de lui montrer la voie, de construire correctement son identité, de rectifier les fausses idées qu'il aurait dans sa tête, jusqu'à ce que ce fils soit en mesure de faire ce qu'il doit faire. Quelle est l'image que j'ai reçue de la patience de Dieu? Parce que c'est cette même image que j'aurai reçue de la patience de Dieu que je vais vivre autour de moi, dans mon entourage. Je suis en but avec quelqu'un qui m'a blessé, ou quelqu'un qui m'énerve, ou quelqu'un qui est insupportable, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. J'ai dit beaucoup, je n'ai pas dit tout le monde. Hein. Quelle est l'image que j'ai reçue de la miséricorde de Dieu? Et c'est pour ça que Jésus va dire, lorsque vous priez, dites « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » La relation que j'ai au pardon des autres, elle dépend de comment est-ce que moi j'aurais reçu le pardon de Dieu. Et Jésus va dire, celui qui a beaucoup à se faire pardonner va aimer beaucoup. Lorsque je suis dans une situation où les personnes m'énervent, où les gens me blessent, me dérangent, quelle est la contemplation que j'ai eue vis-à-vis de la miséricorde de Dieu, de la puissance de la miséricorde de Dieu qui pardonne tous les péchés, qui les met derrière son dos. Lorsque l'on voit des hommes dans la Bible qui ont fait les pires atrocités, pensons à l'apôtre Paul, évidemment, Cet homme qui a persécuté l'Église, qui a été volontairement, sciemment, à l'encontre du plan de Dieu, lorsqu'il a pris conscience de sa faute, lorsque Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, il a complètement changé de vie et il a compris qu'il y avait un nettoyage dans sa vie. Nous aussi, nous sommes ces gens, nous sommes l'apôtre Paul à notre façon. Nous sommes l'apôtre Paul avec nos gestes, avec nos paroles, avec nos manières d'être. Et Dieu nous pardonne, il nous lave, et comme on l'a dit aujourd'hui et la semaine passée, il nous revêt d'un nouveau vêtement, à nouveau un vêtement de sagesse, un vêtement de louange, un vêtement blanc par lequel nous pouvons l'adorer et le louer. Lorsque nous avons grandi, lorsque la contemplation de Dieu nous a permis d'avoir une image d'autant plus précise de sa miséricorde, nous sommes aussi capables d'accorder le pardon aux autres, à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui nous ont offensés. Quelle est l'image que j'ai de la justice de Dieu? Dieu est juste. On chante un Dieu de vérité sans aucune injustice. Tu es fidèle, tu es droit. Dieu n'est pas un Dieu comme les magistrats de cette terre qui peuvent se tromper, qui peuvent mal mettre les balances, qui peuvent se dire « aïe, 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 je me suis trompé, j'aurais pas dû faire ça comme ça ». C'est un Dieu qui juge justement, qui ne supporte pas l'injustice, qui ne supporte pas ce qui est contre la droiture, contre l'intégrité, contre ce qui est correct, ce qui est droit. Quelle est l'image que moi j'ai eue, que tu as eue, de la justice de Dieu, qui peut te permettre dans ta propre vie de la vivre, cette justice de Dieu, en estimant justement que je ne peux pas, moi, être celui qui répand l'injustice. Je ne peux pas être celui qui accepte l'injustice. Je ne peux pas être celui qui développe l'injustice. L'injustice, c'est le faux témoignage, par exemple. Celui qui va aller dire sur quelqu'un quelque chose qui n'est pas vrai, c'est complètement injuste, c'est du mensonge. L'injustice, c'est lorsque nous... comme on dit toujours, je connaissais un frère, il disait toujours ça. Il disait, mais oui, mais celui-là, en parlant d'un autre, il sanctifie toujours ses erreurs. C'était une manière de dire... À chaque fois qu'il fait une erreur, il trouve une manière de dire que son erreur n'est pas une erreur et de dire que c'est juste quand même. Donc, si jamais il s'énerve, il va dire « Mais non, mais je m'énerve parce que j'ai de l'amour pour la parole de Dieu. » Comme ça, on disait « Mais non, c'est pas grave, il n'était pas vraiment énervé. » Ou alors, s'il arrive en retard, il dit « Mais non, mais j'étais en train de m'occuper de l'œuvre de Dieu. » Donc, il y avait toujours une excuse pour dire que ces erreurs n'étaient pas des vraies erreurs. Mais c'est une manière de dire que nous pouvons, nous aussi, être des gens qui tronquent la balance en n'acceptant pas la justice, ce qui est juste, ce qui est juste vis-à-vis des autres, ce qui est juste par rapport à moi-même. Lorsque nous nous comportons mal, lorsque nous avons des mauvaises attitudes, être capable de reconnaître « Seigneur, ou vis-à-vis des autres, c'est juste ce que tu dis. C'est juste, je me suis mal comporté. C'est juste, je me suis mal exprimé. C'est juste l'image que nous avons des différents attributs de Dieu. Ainsi donc, notre relation avec Dieu va dépendre de comment est-ce que nous percevons Dieu, comment est-ce que nous le contemplons. Alors, comment est-ce que nous allons faire à présent pour développer une relation de symétrie? Ça veut dire... Je vois ce que Dieu fait, je vois ce que Dieu veut et je le reproduis dans ma vie. Premièrement, il faut observer. Il faut observer ce que Dieu dit, il faut observer ce que Dieu veut. Non seulement il faut écouter ce que Dieu dit, il faut identifier, il faut saisir ce qui s'adresse à nous et il faut l'accomplir, il faut le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Ça va impliquer premièrement la dépendance. J'apprends à dépendre de Dieu, j'apprends à restreindre mes libertés, à restreindre mes capacités aux instructions que je reçois de Dieu. Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il va dire aussi, dans Jean 12, verset 49, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et ce que je dois annoncer. Et ensuite, le dernier, Jean 7, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Je fais toujours ce qui lui est agréable. Premièrement, si nous voulons que cette contemplation de Dieu porte un fruit dans notre vie, Nous devons accepter de dépendre de Dieu, de dire « Seigneur, je veux faire ta volonté. Je sais que j'ai la liberté de faire tout ce que je veux, d'aller où je veux, de me comporter de la manière que je veux, mais je veux apprendre à limiter ce que je peux faire à ce que toi tu me dis. Je veux dépendre de toi. Je veux chercher ta volonté avant d'agir. Je veux m'imprégner de la direction que tu me donnes avant d'agir. » Deuxièmement, la fidélité. Être fidèle à ce que nous recevons de Dieu. Apocalypse 2, verset 25 nous dit « Seulement ce que vous avez reçu, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » En d'autres termes, ce que vous avez reçu, soyez-y fidèles jusqu'à ce que je vienne. Dans Matthieu 25, verset 23, il nous est dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » La fidélité, être fidèle à nos engagements, être fidèle dans les petites choses, être fidèle à ce que nous avons déjà reçu de Dieu. Lorsque, très souvent, dans les accompagnements, les gens arrivent dans leur vie à des moments où ils ne savent plus où se diriger, ils ne savent plus quelles décisions prendre, ils ne savent plus où ils en sont. Et très souvent, ce qu'on leur dit, c'est « Si tu veux savoir quel est le chemin que tu dois continuer à suivre, retourne toujours à ce que Dieu t'a déjà dit. » En d'autres termes, lorsque dans ton étude de la parole de Dieu, tu as reçu une direction de Dieu et que tu perds à un moment donné la vision de dire « Mais finalement, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Comment je dois me comporter? Quelle décision je dois prendre ?» Retourne toujours à ce que Dieu t'a dit parce qu'il nous appelle à être fidèles à ce qu'il nous a révélé, à ce qu'il nous a montré. Deuxièmement, la fidélité. Être des hommes et des femmes fidèles à nos engagements, fidèles à ce que Dieu dit, fidèles à ce que nous avons reçu. Et troisièmement, l'obéissance. Développer une capacité d'obéissance, nous en avons beaucoup parlé la dernière fois. Alors, différentes étapes pour recevoir ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, puisqu'il est écrit que mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Ce que Jésus dit, c'est que il y a une œuvre que Dieu fait dans ta famille, à l'instant où l'on parle. Il y a une œuvre que Dieu fait dans l'Église, il y a une œuvre que Dieu fait dans la société, il y a une œuvre que Dieu fait dans le monde. Et plus nous allons être capables de voir cette volonté-là que Dieu est en train de faire, plus nous serons capables de vivre en symétrie à ce qu'il nous dit. Premièrement, observer, contempler Dieu. Il dit, quand je contemple les cieux, les ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Et il était aussi écrit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses invisibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La contemplation de Dieu. La vie chrétienne, notre vie chrétienne, elle va avec l'habitude que nous allons prendre de regarder Dieu dans sa majesté, dans sa splendeur. Et peut-être que très souvent, nous stagnons parce que nous avons perdu l'émerveillement devant Dieu. Nous parlons de Dieu, nous le chantons, nous avons un vocabulaire qui est un vocabulaire chrétien, mais nous avons perdu cet émerveillement devant ce Dieu tellement glorieux, tellement majestueux, tellement grand, tellement bon, tellement rempli d'amour. Premièrement, nous avons besoin de retrouver un émerveillement devant la personne de Dieu. Nous avons besoin de retrouver un contact avec qui il est. Et vous voyez comment David, parfois, va s'exclamer de louange dans le psaume 145, par exemple, qui est un merveilleux psaume. Comment est-ce qu'il exalte Dieu? Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Pour pouvoir bénir l'Éternel en tout temps, pour que sa louange soit toujours dans ma bouche, il faut nécessairement que j'ai reçu de Dieu. À quel point est-ce qu'il est digne de louange? À quel point est-ce qu'il est fidèle pour bénir l'Éternel? Je ne sais pas si vous vous imaginez, quand on dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, toujours. Quelle image David avait reçue de la fidélité de Dieu, de sa puissance, de sa gloire. Un Dieu toujours présent, un Dieu toujours à nos côtés, un Dieu toujours favorable, un Dieu toujours à l'écoute, même quand ça ne va pas pour nous. Un Dieu qui est toujours présent. Premièrement, nous avons besoin de retrouver un cœur qui contemple la grandeur de Dieu. Qui contemple la grandeur de Dieu au travers des gens qui sont autour de nous, des gens que nous rencontrons, à travers de ce qu'il fait dans son Église. Contempler la grandeur de Dieu dans sa parole, dans l'œuvre de Jésus à la croix. Cette contemplation de Dieu va avoir un impact sur nous. Lorsque nous allons être rencontrés par l'amour de Dieu, rencontrés par la sagesse de Dieu, rencontrés par la justice de Dieu, rencontrés par la patience de Dieu, rencontrés par la bienveillance de Dieu, nous allons être impactés et capables de la rendre aux autres. Capables de la rendre aux autres. Premièrement, développer, redévelopper un émerveillement devant qui est Dieu. Cette année, lors des vœux du Nouvel An, je crois, ou de Noël, ce qui était très particulier, vous l'avez certainement vu dans les journaux et dans les journaux télévisés, le prince Philippe a fait une allocution, comme il fait toujours, devant la caméra, là, hein, quand la caméra tourne et que lui parle et tout ça. Et le mot qu'il a utilisé, très souvent, c'est le mot « étonnement ». Et donc les journalistes ont fait beaucoup de reportages là-dessus, parce que c'est très particulier. Le mot « étonnement », c'est un mot qui est très très fort repris chez les philosophes grecs. Platon, Socrate, Aristote, qui ont beaucoup beaucoup, qui ont vécu avant Jésus, et qui ont beaucoup beaucoup écrit sur le thème de l'étonnement. Être capable de s'étonner de la vie. Vous voyez que nous rentrons toujours dans une sorte de lassitude de la vie de tous les jours. Ben, voilà, on se lève le matin, on va se réveiller, on va manger, on va boire, on va aller aux toilettes. Ça semble tellement normal. À un moment donné, ça commence à rentrer dans nos habitudes. On va rencontrer son voisin, on va rencontrer son épouse, ses enfants. Ça commence à rentrer dans une sorte de lassitude. Et c'est la même chose avec Dieu. Nous pouvons aussi être rentrés tout doucement dans une sorte de lassitude où nous oublions que Dieu, c'est pas seulement une idée, c'est pas seulement quelque chose dont on nous parle. C'est une personne qui se contemple, une personne qui se voit, une personne qui agit puissamment dans nos vies. Premièrement, retrouver le sens de la contemplation de Dieu. Lorsqu'on se lève le matin, Seigneur, montre-moi aujourd'hui un de tes attributs que je n'ai pas encore compris. Je me lève le matin, Seigneur, fais-moi découvrir davantage qui tu es aujourd'hui. Dans un contact que je vais avoir avec quelqu'un, dans une discussion, je veux te découvrir davantage. Je veux avoir une image d'autant plus précise de ta gloire, de ta puissance, de ta bonté, de ta sagesse. Moi, j'ai fait un jour l'expérience d'une personne que j'ai rencontrée et qui m'a... Et quand j'ai vu la personne agir, c'est comme si j'avais compris en un instant la tendresse de Dieu. Il s'est passé quelque chose, je ne veux pas rentrer dans les détails, ce n'est pas ici, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, il s'est passé un problème, une difficulté qui était là, qui se présentait. Et moi, j'étais passif dans la situation, je ne faisais rien, j'observais. Et quand j'ai vu cet homme, c'est un homme, s'approcher de la personne en souffrance, la manière dont il l'a pris, la manière dont il a prié pour lui, c'est comme si Dieu venait de me montrer à quel point il était tendre avec moi. Et j'ai béni Dieu de ce qu'il m'avait permis d'avoir intégré cette tendresse de Dieu qui vient à notre secours, alors que nous sommes dans des souffrances indicibles qu'on ne peut pas expliquer. Cette tendresse qui vient nous rencontrer, qui vient nous toucher, qui vient nous envelopper. Et lorsque nous sommes l'objet de cette tendresse de Dieu, nous devenons capables de la donner aux autres. Capables de la donner aux autres. La tendresse du père du fils prodigue qui le récupère. Ce fils qui a demandé son héritage, ne l'oublions pas, qui est parti, qui a tout dépensé, qui revient dans les bras de son père. Il court devant son fils, il le prend dans ses bras. Oh, lorsque nous faisons l'expérience de la tendresse, de la bienveillance, de la grâce, de l'amour de Dieu, nous devenons capables d'inonder le monde de ce que nous avons reçu de lui. Deuxièmement, nous avons besoin, pour vivre cette contemplation, d'apprendre à écouter. Alors, on ne va pas en parler beaucoup parce que Benoît en a largement parlé il n'y a pas longtemps avec le trio de Béthanie. Juste rappeler la réaction de Samuel lorsque Dieu l'appelle, 1 Samuel 3, verset 10, « L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et ça, c'est vraiment la réponse de l'enfant de Dieu, du fils qui est dans la maison de son père. La seule chose qu'il veut, c'est que son père parle et lui, il va écouter ce que Dieu dit. Premièrement, je développe ma capacité de contemplation. Deuxièmement, je développe ma capacité d'écoute, ma capacité d'écouter ce que Dieu dit. J'écoute Dieu lorsque je lis sa parole, lorsque je l'étudie, lorsque je la médite, avec l'Esprit de Dieu qui éclaire, qui m'éclaire, j'écoute Dieu. Lorsque je suis interpellé dans les choses qu'il me montre, j'écoute Dieu. Lorsque j'écoute un frère m'encourager, lorsque j'écoute une sœur me parler, lorsque j'écoute une méditation biblique, tellement de façons d'écouter Dieu. Vous savez que dans la Bible, on nous dit que Dieu parle par la nature. Vous connaissez le psaume 29 ? La voix de l'Éternel se fait retentir, la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel. Dieu parle. Dans les fracas d'un orage, dans la nature, Dieu parle. Dieu parle par notre conscience intérieure qui nous reproche le mal que nous faisons. Dieu parle au travers des humains que nous rencontrons. Dans la Bible, Dieu parle même au travers des ânes. Dieu parle au travers des événements de la vie, à travers des circonstances que nous rencontrons. Dieu nous parle, Dieu nous instruit. Au travers des Écritures, au travers des serviteurs de Dieu que nous rencontrons, au travers de ce qui est partagé dans l'Assemblée, Dieu nous parle. Et notre prière, première prière pour la contemplation, c'est « Seigneur, fais-moi découvrir un nouveau de tes attributs, un des attributs que je n'ai pas encore compris. » Deuxième prière, « Seigneur, apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à reconnaître quand tu me parles. » Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix. » Je les connais, elles me suivent. Les brebis, c'est celles qui écoutent la voix du berger. Troisièmement, premièrement, contempler. Deuxièmement, écouter. Troisièmement, discerner. Discerner. Vous l'avez certainement déjà remarqué, mais au tout début, la première action de Dieu dans la Bible, c'est l'action de séparer. Il parle, bon, si on doit considérer que parler est une action, mais la première action de Dieu, c'est qu'il va séparer la lumière des ténèbres. Ensuite, il va séparer les eaux d'en dessous de l'étendue et les eaux du dessus de l'étendue. Donc, les premiers actes que Dieu pose lorsqu'il crée, c'est qu'il sépare, il discrimine, il fait une différence entre les choses. Et ça nous montre à quel point est-ce que Dieu, dès la création, nous montre l'importance d'être capable de faire la séparation entre les choses, de discerner, de mettre chaque chose à sa place, de faire la part des choses. Nous avons cet appel d'apprendre à discerner. Premièrement, apprendre à discerner le bien et le mal. Il est écrit, nous avons beaucoup à dire là-dessus, c'est dans Hébreux 5, et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » La croissance de notre vie chrétienne, c'est lorsque nous grandissons dans notre capacité à faire le discernement entre ce qui est bien et entre ce qui est mal. Au fur et à mesure que nous vivons des situations qui ne sont pas prévues dans la Bible. Dans la Bible, on ne parle pas de la télévision, on ne parle pas de Facebook, on ne parle pas de la Gay Pride, on ne parle pas des voitures, on ne parle pas des Hyundai, il y a plein de sujets dont on ne traite pas dans la Bible. Et au fur et à mesure que nous vivons, nous rencontrons des situations dans lesquelles nous avons à faire des choix. Nous avons à nous positionner, nous avons à dire qu'est-ce que je dois faire moi en tant qu'enfant de Dieu. Premièrement, apprendre à discerner le bien et le mal. Dans tout ce qu'on nous propose, dans tout ce qu'on nous donne dans notre vie de tous les jours, apprendre à discerner ce que Dieu considère comme bien, apprendre à discerner ce que Dieu considère comme mal. Il dit « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Grandir dans le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Deuxièmement, discerner les choses les meilleures. Philippiens 1, verset 9 nous dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Vous voyez qu'on monte de niveau. Il faut commencer par être capable de discerner le bien et le mal. On peut dire, oui, c'est plus ou moins facile. Mais deuxièmement, il faut être capable de discerner les choses les meilleures. Donc il ne faut pas se contenter dans la médiocrité de dire « ça me semble bien, ça me semble mal, ça ne me semble pas trop mauvais ». Il faut apprendre à discerner les choses les meilleures. Les meilleures pour ma foi, les meilleures pour l'Église, les meilleures pour ma croissance, les meilleures pour ma famille, les meilleures pour ma vie de prière. Discerner les choses les meilleures. Qu'est-ce qui va me permettre d'aller pleinement dans la dimension où Dieu m'appelle ? Apprendre à discerner les choses les meilleures. Troisièmement, apprendre à discerner la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Waouh ! Bon, agréable, parfait. Discerner la volonté de Dieu, ce qui lui est agréable, ce qui lui est bon, ce qui est parfait devant lui. Et ensuite, apprendre à discerner les temps. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sur le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour déraciner, un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire. Nous grandissons aussi dans notre vie spirituelle, nous grandissons dans la maison du Père lorsque nous devenons capables de discerner les temps. Je peux discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je peux discerner ce qui est le meilleur. Je peux discerner ce qui est agréable à Dieu, mais je suis capable de discerner les temps. Quel est le temps pour faire les choses? Quel est le temps de Dieu aujourd'hui? Quelle est la priorité de Dieu pour aujourd'hui, pour notre Église, pour ma vie, pour ma relation familiale? Quel est le temps de Dieu? Être capable de savoir quand c'est le moment d'agir, quand c'est le moment de se taire, il y a un moment pour parler. Vous voyez, dans notre vie, nous sommes constamment dans des situations où nous avons par exemple quelque chose à dire, et on se dit, mais est-ce que c'est le moment où je dois le dire? Est-ce que ce n'est pas demain? Est-ce que ce n'est pas dans 3 semaines? Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Est-ce que c'est pas facile? Apprendre à discerner les temps. Voici le moment où tu peux parler, voici le moment où tu peux te taire. Vous savez, les proverbes disent que il n'y a rien de plus doux qu'une parole qui vient au bon moment. Une parole qui vient au bon moment, une action qui vient au bon moment. Combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu n'ont pas été détruits, déracinés par une parole qui ne venait pas au bon moment, par une action qui ne venait pas au bon moment. Nous avons besoin de discerner les temps de Dieu. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et puis dernièrement, nous sommes appelés à imiter Dieu. À imiter Dieu. Au fur et à mesure que nous allons grandir, que nous allons le contempler, voir sa gloire, voir sa puissance, voir son être, voir sa nature, que nous allons apprendre à l'écouter, à écouter sa voix, à discerner sa volonté, nous allons avoir une image d'autant plus précise, d'autant plus intégrée de Dieu. Une image intégrée de Dieu, pas une image extérieure, pas une image racontée, mais une image que j'intègre. J'intègre la tendresse de Dieu, j'intègre l'amour de Dieu, j'intègre la grâce de Dieu. Au fur et à mesure que nous allons grandir comme cela, nous allons pouvoir être capables de l'imiter. C'est l'apôtre Paul qui disait « Imitez-moi comme je suis l'imitateur de Christ ». Être capable d'imiter ce que nous retrouvons dans le cœur de Dieu. Alors, dans le texte de Matthieu chapitre 5, l'exégèse de ce texte-là est très particulière parce que c'est un texte dans lequel Jésus nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit, t'aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras ton prochain. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et haïssez ceux qui vous maudissent. » Donc Jésus nous fait tout un enseignement sur son amour, sur sa miséricorde. Et ensuite il termine en disant « Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. » Après avoir enseigné sur l'amour, sur la grâce de Dieu, Jésus termine en disant « Soyez donc parfaits comme mon Père est parfait. » La perfection de Dieu, la perfection pour nous, c'est la perfection dans l'amour. C'est la perfection dans la grâce, c'est la perfection dans la miséricorde. Au fur et à mesure que cet amour de Dieu va nous remplir, au fur et à mesure où nous allons élargir nos cœurs à l'amour de Dieu, nous allons être capables de ressembler à sa nature, lui qui est amour, et d'aimer comme lui il aime. L'amour que nous donnons aux autres, l'amour que nous nous donnons, est un amour imparfait tant que c'est un amour qui vient de nous. Il ne trouve sa perfection que lorsqu'il est un amour de ressemblance à Dieu, un amour de ressemblance à sa nature. Il va nous dire, l'amour est patient. Qui peut être patient si ce n'est celui qui a expérimenté la patience de Dieu à son égard? Il va nous dire, l'amour est plein de bonté. La bonté, c'est ce qui permet à Dieu de faire couler la pluie sur les bons et sur les méchants, de donner le pain à ceux qui agissent bien, à ceux qui agissent mal. La bonté, c'est accorder sans tenir compte des mérites de la personne à qui l'on donne. La bonté de Dieu. Qui peut être bon envers les autres? Qui peut donner à quelqu'un qui lui a fait du mal? Qui peut aimer quelqu'un qui lui a fait du mal? Sinon celui qui a conscience qu'en tant qu'ennemi de Dieu, il a été aimé par lui. Il va nous dire, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne veut pas ce qui est aux autres. C'est-à-dire, l'amour respecte l'autre. L'amour donne de la valeur à l'autre. L'amour n'empiète pas sur ce qui est aux autres. L'amour ne se vante pas. C'est-à-dire que l'amour, ce n'est pas d'essayer de se mettre devant et de mettre les autres derrière. Un grand poète qui disait que Dieu crée comme la mer en se retirant. Dieu crée comme la mer en se retirant. C'est-à-dire que Dieu se retire pour laisser la place aux autres. L'amour ne se vante pas. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne fait rien de malhonnête. Rien de malhonnête. Pas d'inconvenance, pas de mensonge, pas de sournoiserie, pas de ruse. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite pas, il ne se met pas en colère. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Quelle image de la nature de Dieu. Il ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne médite pas le mal. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Je disais au début que vous étiez insupportable, mais bon, je vais quand même faire l'effort de vous supporter. Et dernièrement, l'amour espère tout. L'amour espère tout. Alors que le Seigneur nous aide, chacun pour nous-mêmes, à trouver notre voie de la contemplation. Parce que la contemplation transforme nos vies chrétiennes. Lorsque nous contemplons Dieu, nous arrêtons de dépendre des circonstances, nous arrêtons de dépendre des personnes, nous arrêtons de dépendre des lieux, et nous dépendons de sa nature qui est immuable, il ne change pas. Et nous devenons capables d'aller auprès de lui pour recevoir son amour, sa tendresse, sa grâce, sa sagesse, son amour, et la transmettre aux autres. Que Dieu nous aide à vivre une vie de contemplation, une vie d'écoute, une vie où l'on regarde à Dieu, où l'on veut le découvrir davantage, et où cette découverte de qui est Dieu, cet approfondissement de la nature de Dieu, nous aide à transformer nos relations, à transformer notre regard sur le monde. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, voulons-nous tourner vers toi, parce que en ce jour, tu veux nous rappeler à quel point nous avons besoin de te contempler. Seigneur, ton nom est grand, ton nom est magnifique sur toute la terre et nous sommes tes enfants, nous le savons, nous voulons encore te remercier d'avoir fait de nous tes enfants en Jésus-Christ. Nous voulons te prier, Père, pour que tu nous aides dans notre vie de tous les jours, dans cette semaine qui commence, à grandir dans la contemplation, Seigneur. Aide-nous à découvrir jour après jour plus de toi, plus de ta personne, plus de ton caractère, plus de ta nature, pour que nous soyons capables, Seigneur, d'être, comme Jésus le disait, des fils qui ne font rien de leur propre initiative, mais des fils qui se contentent d'observer ce que le Père fait et de reproduire ce qu'ils voient chez leur Père. Aide-nous, Seigneur, en cette semaine et dans les jours qui viennent, à découvrir ton amour davantage, à découvrir davantage ta justice, ta sagesse, ta bienveillance, ta grâce, ta bonté, et à la vivre autour de nous, Seigneur. Nous voulons vraiment être impactés de ta présence, comme ces frères qui étaient à la montagne de la Transfiguration, qui ont vu le visage du Seigneur Jésus transformé par la gloire qui descendait. Seigneur, que nous aussi, en te contemplant, nous puissions avoir un visage transformé, des cœurs transformés, des vies changées. Et Seigneur, que la contemplation donne le rythme à notre vie, donne un cœur à notre vie, pour que nous soyons pour ce monde ton visage, pour que nous soyons pour ce monde le miroir de qui tu es. Merci Père pour tes grâces, merci pour tes bontés. Amen.